sa parole et c'est sur ses promesses. C'est ça ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Nous voulons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Donc, si vous avez la Bible devant vous, merci de l'ouvrir à Matthieu chapitre 12. Si vous êtes enfant ici, merci de vous mettre à côté de vos parents. Si vos parents sont dans la salle, ce serait excellent de vous mettre à côté d'eux. Comme ça, ils peuvent vous aider à rester concentrés durant le message. Donc, si vous avez un parent ou deux dans la salle, Joachim Paul, si vous pouvez rejoindre les parents. Matthieu chapitre 12, verset 46, et nous allons lire ça dans un instant. Mais quel soulagement, n'est-ce pas, de voir la pluie tomber samedi. Ouh! On n'était jamais aussi content de voir la pluie ici en Belgique, n'est-ce pas? Et puis hier, voilà, on s'est mis à se plaindre. Encore une fois, n'est-ce pas? On disait, mais mince alors, cette pluie, quand est-ce qu'elle va cesser? Mais de voir la température chuter, ouf, ça fait du bien quand même. Et ça n'a pas été facile la semaine passée. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour rester au frais, si c'était une possibilité pour vous. Rester au rez-de-chaussée, dans le sous-sol, peut-être chez vous. Les IA a dû faire des activités un peu avec les enfants pour trouver la climatisation partout en Belgique. Et c'est quelque chose qu'elle a fait, c'est d'aller à IKEA. Aller à IKEA, peut-être avec tous les autres, mais elle est allée à IKEA. Et donc cela m'amène à vous poser une question très importante, une question qui va influencer beaucoup de choses dans votre vie. Faites-vous ou faites-vous pas partie de la famille IKEA? Êtes-vous membre ou pas de la famille IKEA? Est-ce qu'il y en a ici qui sont membres? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Est-ce que vous avez une carte comme ça et qui a Family? Vous avez, voilà, les chanceux parmi nous. Nous sommes membres de cette famille privilégiée qui est IKEA. Et qu'est-ce qu'on a si on est membre? C'est tout à fait gratuit. Vous remplissez un papier et ils surveillent tout ce que vous avez jamais acheté dans votre vie à IKEA. C'est très bien. Et vous avez thé ou café gratuit en semaine dans le café. Donc, si vous voulez aller avec la carte IKEA Family, vous pouvez avoir plein de bénéfices, rien qu'en devenant membre de la famille IKEA. Alors, peut-être j'exagère un petit peu, ça ne va pas changer votre vie autant que cela, d'être membre ou pas de la famille d'IKEA. Mais nous allons parler ce matin de, est-ce qu'on fait partie, oui ou non, de la famille de Dieu? Et ça, c'est une question déterminante pour chacun d'entre nous, parce qu'il y a un impact éternel de cela. Et il y a des énormes privilèges pour les membres de la famille de Dieu. Et donc, nous allons prier pour l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Et puis, nous allons lire le passage qui est devant nos yeux. Prions. Notre Père, nous te louons pour ta parole. Et nous te louons pour le privilège immense de pouvoir faire partie de ta famille. Nous te prions de nous éclairer quant au sens de ce passage, que nous puissions nous positionner devant toi pour savoir si nous faisons partie de ta famille ou pas encore. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, Matthieu chapitre 12, nous arrivons à la fin de cette série de prédications Matthieu. Matthieu 12, 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Jusque-là, la lecture. Nous allons distribuer les feuillets pour les enfants. Et juste en attendant, si vous pouvez tourner à la personne à côté de vous, et juste leur poser la question, qui est enfant de Dieu dans ce monde? Qui est enfant de Dieu? Si on demandait ça à vos voisins, qui est enfant de Dieu dans ce monde-ci? Allez, une minute pendant qu'on distribue les feuilles pour les enfants. Qui fait partie de la famille de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Et si vous êtes enfant, merci de lever la main pour recevoir la feuille qui arrive. 7 à 12 ans. Alors, si vous êtes... Ah ouais. Ok, les enfants, c'est mieux de rester et écouter, faire la première page sans les mots mêlés pour l'instant, juste d'écouter, et puis à la fin, vous pouvez faire le reste. Donc, vous poursuivez cette conversation après, qui fait partie de la famille de Dieu, qui est enfant de Dieu, parce que certains vont dire que c'est tout le monde est deux fils enfants de Dieu. C'est ça ce que certains vont dire, on va dire que Dieu est le père de tous, mais est-ce vrai finalement? Est-ce vrai? D'autres vont dire, nous avons tous un petit peu du divin en nous. On est tous quelque part divins. Ça, c'est ce que d'autres vont à dire. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même dit? C'est ça là, ce que nous voulons savoir. Nous avons vu en Matthieu, n'est-ce pas, Jésus a démontré une autorité époustouflante sur la nature et calmé les orages, sur la maladie et sur la mort. Une autorité pour pardonner les péchés des gens. Il se prétend être Dieu venu sur terre, celui qui seul peut créer un nouveau monde parfait, sans souffrance. Et il nous a dit comment nous pouvons faire partie de ce royaume parfait. Tout au long du chapitre 12, nous avons vu des gens rejeter Jésus, des gens religieux, très religieux. Ils ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas voulu croire en lui. Mais tout à la fin de ce chapitre, tout à la fin de la section, nous voyons un groupe de personnes qui acceptent Jésus, qui croient en lui. Et nous voyons ce que Jésus leur dit. Mais pour la première fois depuis le chapitre 2 de cet évangile, nous voyons une mention de la famille biologique de Jésus. Voyons le verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, il était en train de prêcher, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Cherchèrent à lui parler. Donc imaginons, on était plus rempli même qu'aujourd'hui, et il n'y avait plus de chaises vides dans la salle ici, et même pas dans le hall d'entrée. Et donc les gens devaient faire la file sur le trottoir. Et c'est là où se trouvent la mère et les frères de Jésus. Jésus est en train de partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que sa mère et ses frères veulent, selon le texte? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent lui parler. Ils ne veulent pas attendre à ce que Jésus ait terminé ce qu'il était en train de faire. Ils veulent l'interrompre. Ils pensent avoir une certaine importance du fait de faire partie de la famille biologique de Jésus. Et juste entre parenthèses, ce sont des versets comme celui-ci qui nous fait réfléchir concernant la doctrine catholique que Marie soit restée vierge tout au long de sa vie, que Jésus n'a jamais eu de frère ou de sœur. Il était enfant unique, mais nous voyons clairement dans ce texte, verset 46, qu'il a des frères, n'est-ce pas? Il ne faut pas ajouter des traditions humaines à ce que la Bible nous dit. Il faut rester avec ce que la Bible nous dit. Donc Jésus, il est occupé. Et qu'est-ce que Jésus dit en réponse à la personne qui dit, « Hé, ta maman, tes frères s'endort, ils veulent te parler. » Qu'est-ce qu'il dit? Verset 48. Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» C'est frappant, n'est-ce pas? Qui est ma maman? Qui sont mes frères? Les gens savaient qui était sa mère biologique et qui étaient ses frères biologiques, mais il veut utiliser cette interruption pour enseigner quelque chose par rapport à la nature de sa vraie famille. Qui fait partie de sa vraie famille spirituelle? Verset 49. Il étend sa main sur ses disciples. Il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Il dit, « Les vrais membres de ma famille, ce sont mes disciples, pas les membres de ma famille biologique. » Où se trouvent les membres de la famille biologique, selon ce verset? Dehors. Le langage est censé nous faire réfléchir, mais qui est ici, en train d'écouter Jésus? Et qui est dehors. Quel choc cela a dû être pour Marie et ses frères, n'est-ce pas? Mais quel encouragement pour les disciples! Et c'est la première chose que nous voyons dans ce chapitre. Jésus nous donne le droit d'appartenir à la famille de Dieu. Jésus nous donne le droit d'appartenir à la famille de Dieu. Il dit que ses disciples sont sa mère, sa sœur ou son frère. Il parle d'une relation d'intimité. Jésus aurait pu qualifier ses disciples d'employés ou d'esclaves. ou de bénévoles, de serviteurs, mais les qualifie de membres de sa famille. Quel privilège, n'est-ce pas? Jésus n'offre pas seulement l'accès au paradis, un nouveau monde une fois qu'on meurt, mais nous permet d'entrer en relation intime avec Dieu dès maintenant. Nous pouvons être son frère, sa sœur ou sa mère. Et c'est frappant, il ne dit pas que nous pouvons devenir le père de Jésus. Pourquoi? Je pense que Matthieu 23 nous donne la réponse. Jésus dit « N'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père qui est dans les cieux. » Jésus veut nous faire comprendre que si nous faisons partie de la famille de Jésus, nous avons Dieu comme notre père. Et verset 50, il parle de son Père qui est dans les cieux. Tout au long de cet évangile de Matthieu, on retrouve l'expression « le Père, notre Père, notre Père qui est aux cieux ». Ce serait une excellente chose à faire si vous partez en vacances, de prendre un évangile de Matthieu avec vous, de souligner chaque fois qu'il y a mention du Père qui est dans les cieux, et voir comment on doit concevoir notre relation avec Dieu. Réfléchissez à la famille royale ici en Belgique. Il y a de fortes chances que vous ne les connaissiez pas personnellement. Peut-être vous allez nous dire plus tard que vous les connaissez personnellement. On pourrait éventuellement recevoir une invitation au palais pour une fête spéciale, une réception. Mais on ne sera jamais invité à faire partie de la famille, à manger avec eux tous les jours, à parler au roi quand on veut. Par Jésus, nous pouvons devenir enfant de Dieu. Le Dieu qui, de droit, devrait être notre juge, nous condamner à cause de notre rébellion contre lui. C'est lui qui devient notre Père. Nous entrons dans une relation d'amour et de sécurité avec lui. Peut-être que nous n'avons pas eu une très bonne relation avec nos parents. Et donc, le fait que nous puissions devenir enfants de Dieu ne nous remplit pas nécessairement de joie. Mais nous devons savoir que Dieu le Père est de loin meilleur comme Père, que le meilleur Père terrestre imaginable. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne sera jamais trop occupé pour nous parler ou pour écouter ce que nous avons à lui dire. Quel privilège de faire partie de sa famille. Pensez à la personne la plus privilégiée que vous connaissez. C'est qui? Qui sont les gens les plus privilégiés en Belgique, à votre avis? Ceux qui jouissent d'une bonne santé, peut-être, malgré les années qui avancent. Quelqu'un de riche qui n'a aucun problème de finances. Quelqu'un qui a réussi dans sa vie professionnelle. Quelqu'un qui a fait une belle carrière, qui a une belle famille, des enfants, des petits-enfants, qui s'est épanoui en termes de relations. Mais Jésus dit, la personne la plus privilégiée en Belgique est celle qui connaît Dieu comme son Père. Beaucoup plus privilégiée que toutes les autres personnes. Mais si nous connaissons Dieu comme notre Père, cela veut dire que nous sommes frères et sœurs de Jésus. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Nous jouissons du même statut que lui en tant que fils bien-aimé de Dieu. Et nous jouissons du même avenir que lui. Lui, il est héritier de toutes choses, de tout l'univers, et nous le sommes aussi. Nous avons une éternité dans la présence de Dieu, dans un nouveau monde parfait devant nous. Jésus nous permet d'appartenir à la famille de Dieu. Il n'y a personne d'autre au monde qui puisse vous donner une telle relation. Il y en a beaucoup qui vont essayer de vous convaincre qu'il en est autrement. Venez ici pour connaître Dieu. Lisez ce livre. Suivez ses principes. Suivez ce gourou pour connaître Dieu. Mais il ne faut pas les écouter. Seul Jésus, le Fils par excellence, est celui qui peut nous faire entrer dans la famille de Dieu. Mais la grande question, c'est qui peut faire partie de la famille de Dieu? Qui est enfant de Dieu? C'est la deuxième chose que nous voyons. Toute personne qui fait la volonté de Dieu fait partie de sa famille. toute personne qui fait la volonté de Dieu fait partie de sa famille. C'est ça ce qu'il dit au verset 50. Verset 50, Jésus dit ceci, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et donc, ce serait utile de rappeler qui ne fait pas partie de la famille de Dieu. D'abord, la famille biologique ne fait pas forcément partie de la famille de Dieu. Nous savons que plus tard, Marie et les frères de Jésus ont cru en lui pour faire partie de la famille spirituelle, mais ce n'était pas automatique. Le fait de côtoyer Jésus ne suffit pas pour appartenir à sa famille. Le fait d'être religieux ne suffit pas non plus. Jésus lui-même a dit à la fin du serment sur la montagne, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, dit Jésus, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il s'agit de personnes qui ont fait beaucoup de choses au nom de Jésus, pensant qu'ainsi elles pourraient avoir accès au paradis. Mais Jésus leur dit, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » On ne devient pas membre de la famille de Dieu en faisant plus de bien que de mal. J'imagine les enfants, je m'adresse à vous un instant, les enfants. Vous êtes contents de ne plus avoir d'examen à l'école. C'est fini tout ça pour l'été. Vous êtes contents? Oui. Je ne vais pas vous demander les résultats devant tout le monde. Ça va peut-être vous gêner. Peut-être les adultes, vous êtes contents de ne plus avoir d'examen. Ou peut-être au boulot quand même, il y a chaque année, il faut voir le patron pour voir comment on évalue votre progrès, etc. C'est toujours stressant. Et parfois, on peut imaginer que la relation avec Dieu, c'est la même chose. Pour entrer dans la famille de Dieu, nous devons voir le patron, voir Dieu, et voir comment nous avons évolué dans notre progrès, dans certaines disciplines, ou dans les mœurs. Comment est-ce qu'on a agi envers telle ou telle personne? Est-ce qu'on a fait du progrès en aimant l'autre? Ou en faisant nos prières, en lisant la Bible? Mais ce n'est pas du tout le cas. Jésus nous dit qu'on entre dans la famille de Dieu par pure grâce, par le fait que Jésus est mort à notre place. Il nous offre cela gratuitement. Tout comme, pas tout comme, mais comme à IKEA, on peut devenir membre sans rien payer. Pour la famille de Dieu, on peut entrer dans sa famille sans rien payer nous-mêmes, parce que Jésus a tout payé lui-même par son sang précieux à la croix. Alors comment on peut faire partie de la famille de Dieu, alors si ce n'est pas toutes ces choses-là? Mais verset 50, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Et nous voyons juste avant, verset 49, Jésus étend la main sur qui? Sur ses disciples. Dans les gens qui suivent Jésus, il faut suivre Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font, les disciples de Jésus? Ils font la volonté de Dieu. Parfois, lorsque nous parlant de la volonté de Dieu, nous pouvons avoir des idées assez mystiques sur le sujet. Nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que cela est passé par votre tête? Nous pensons qu'il y a un plan spécifique que Dieu va nous révéler et que nous devons trouver ce plan à tout prix. La Bible dit que cela ne marche pas comme ça. Dieu ne nous révélera pas quel chemin va prendre notre vie. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin de savoir dans sa parole, la Bible. Et il nous encourage à faire preuve de sagesse et de profiter des conseils des autres qui sont plus mûrs dans la foi. Dans la volonté de Dieu, dans ce verset, n'est pas quelque chose de mystérieux. Il s'agit plutôt des commandements clairs qui se trouvent dans les Écritures. Et surtout, les commandements véhiculés par le Fils de Dieu, Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui obéit à ses commandements. Quel est le premier commandement que Jésus a donné dans cet évangile? Il dit « Repentez-vous, repentez-vous ». Un appel à se détourner de notre vie de rébellion et de péché et de se tourner vers lui pour recevoir le pardon. Et le deuxième commandement qu'il a donné, C'est un appel à ses futurs disciples de le suivre. Suis-moi, il dit. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est se repentir et suivre Jésus, se tourner vers lui pour croire dans son Fils. Nous pouvons accomplir toutes les œuvres religieuses que nous voulons, mais si nous ne sommes jamais tournés vers Dieu pour recevoir son pardon, nous ne faisons pas la volonté de Dieu et nous ne faisons pas partie de sa famille. Rappelons-nous la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, « Notre Père qui es aux cieux ». Qu'est-ce qui se trouve au centre? Il y a une ligne qui dit « Pardonne-nous nos offenses ». Si on veut faire la volonté de Dieu, nous devons venir devant Dieu humblement, en reconnaissant, pas juste qu'on n'est pas parfait, tout le monde peut reconnaître cela, mais qu'on a offensé le Dieu vivant et vrai, que nous méritons sa condamnation éternelle et que nous devons lui demander pardon. Sachant que par la mort de son Fils à la croix, nous pouvons avoir un pardon entier de toutes nos fautes, passées, présentes et futures. Donc la première chose à faire, si nous voulons faire la volonté de Dieu, c'est nous humilier devant lui et lui demander pardon. Avez-vous fait cela? Et ensuite, nous devons écouter sa voix. La section qui suit, le chapitre 12, nous n'allons pas le voir, mais commence par une parabole qui met l'emphase sur le besoin d'écouter la parole de Dieu. Ça parle du semeur qui sortit pour semer. Un disciple de Jésus écoute sa voix. Ce que Dieu dit dans la Bible devient la chose la plus importante pour un disciple de Jésus. Pour toute question morale ou éthique, nous interrogeons la parole de Dieu. Pour toute question concernant la foi, ce qu'il faut croire concernant Dieu, nous nous tournons vers ce que la société pense? Non, ce que Dieu nous dit dans la Bible. Il y avait un prédicateur, John Wesley, du 18e siècle, corrige-moi, voilà, on a des gens qui disent oui de la tête, c'est encourageant. Voilà, il a dit la chose suivante pour dire à quel point il veut être attaché à la Bible. Il dit, j'ai besoin de connaître une chose, le chemin qui mène au ciel et le moyen de débarquer heureusement sur cette plage bénie. Dieu lui-même a daigné nous enseigner ce chemin. Il est descendu du ciel pour cela. Il a écrit dans un livre ce qui en est. Oh, donnez-moi ce livre. À tout prix, donnez-moi le livre de Dieu. Je le possède. Dans ces pages, il continue la science qui me suffit, que je sois l'homme d'un seul livre. C'est comme ça qu'il s'est appelé l'homme d'un seul livre, la Bible. Est-ce qu'on pourrait nous décrire, nous, comme des hommes et des femmes, d'un seul livre? Un seul livre qui compte le plus, une seule voix que nous voulons écouter au-dessus de toute autre voix. Et ensuite, le disciple se soumet à Jésus dans tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas de domaine qu'il se réserve pour lui-même. Non, Jésus a un droit de regard dans tous les domaines, dans notre vie. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est de se repentir, croire en Jésus pour le pardon, c'est d'écouter sa voix et de se soumettre à lui comme notre roi. Jésus nous permet d'appartenir à la famille de Dieu. Quel privilège! Et donc, nous allons voir trois implications de cet épisode pour nous avant de clôturer. Trois implications. Premièrement, il faut impérativement se positionner face à Jésus. Il faut impérativement se positionner face à Jésus. Jésus trace une ligne très claire ici entre ceux qui sont ses disciples et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui font la volonté du Père au ciel et ceux qui ne font pas. Tout au long du chapitre 12, on a vu les gens rejeter Jésus. Certains de façon flagrante en cherchant à tuer Jésus. D'autres de façon moins flagrante. Et peut-être que vous êtes ici, peut-être vous aimez bien entendre parler de Jésus. Peut-être l'aspect communautaire de la foi chrétienne vous plaît. Mais vous réconcilier avec Dieu ne vous intéresse pas plus que cela. Mais ce passage devrait servir d'avertissement. Car comme Jésus a dit plus tôt dans le chapitre au verset 30, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. » Si nous ne sommes pas consciemment avec Jésus, par la foi et la repentance, nous sommes contre lui. Et il sera contre nous lors du jugement dernier. Chaque personne ici dans cette salle doit se positionner face à Jésus. Voulez-vous faire partie de sa famille? Voulez-vous connaître le Créateur de l'univers comme votre Père? Alors ne traînez plus. Placez votre confiance dans la mort de Jésus pour vous sauver. Détournez-vous de votre ancienne vie pour placer Jésus au centre de votre nouvelle vie. Une deuxième implication de cet épisode est une mise au défi pour ceux qui sont déjà chrétiens. Car nous voyons ici que la famille spirituelle doit avoir la priorité sur la famille biologique. La famille spirituelle doit avoir une priorité sur la famille biologique. Ce que Jésus nous enseigne ici nous montre à quel point nous avons une relation privilégiée avec Dieu, mais cela nous dit plus sur nos relations les uns avec les autres à l'Église. Quelle relation est-ce que j'ai avec les autres ici dans cette pièce? Mais selon ces versets, ils sont aussi frères et sœurs de Jésus, s'ils sont chrétiens. Peut-être si on devait créer ça nous-mêmes, on n'aurait pas choisi d'être dans la même famille que certaines personnes à l'Église. De même que dans notre famille biologique, peut-être on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai un frère comme ça, une sœur comme ça? Mais on est dans la même famille. On a l'obligation de s'aimer mutuellement. Et pour nous, nous qui faisons partie de la même famille spirituelle, Jésus montre que la famille spirituelle doit passer avant la famille biologique. Il laisse sa maman et ses frères dehors pour se concentrer sur ses disciples. N'est-ce pas? Et Jésus a dit au chapitre 10, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Si nous aimons Jésus, cela veut dire aimer nos frères et sœurs dans la foi. C'est toujours encourageant lorsque j'entends que les membres de cette église se réunissent en dehors du dimanche matin pour se voir, pour passer un moment ensemble. C'est ça ce que la famille fait. N'est-ce pas? On ne se contente pas juste de se voir une fois par an, à Noël peut-être, ou peut-être c'est le cas dans notre famille. On se voit une fois, de manière très, voilà, bref, et puis on se dit au revoir. Mais dans une vraie famille, dans la famille de la foi, on veut se voir, on veut partager des moments ensemble, partager des nouvelles, partager des sujets de prière. Nous avons été invités à manger chez les membres de l'Église 3 fois cette semaine. Et ça, c'est juste extraordinaire de voir les gens qui veulent ouvrir leur maison, pour partager un moment autour d'un repas et pour échanger, pour s'encourager mutuellement. C'est vraiment un sujet de joie. Mais parfois, je pense que nous avons du mal à faire passer la famille spirituelle avant la famille biologique. Pensez au scénario suivant. Un membre de la famille vient chez vous pour le week-end et n'accepte pas malheureusement votre invitation à vous accompagner à l'église. Que faites-vous? Restez à la maison, ratez le culte? Ou bien lui dire que vous le verrez à votre retour de l'église. Ou on vous invite à un repas de famille qui commence à 12h30 le dimanche. Que faites-vous? Vous ratez le culte? Mais pourquoi ne pas leur dire « Je suis désolé, mais je viendrai aussitôt que possible après la rencontre familiale de l'église. » Ou peut-être vous organisez un repas de famille chez vous le dimanche midi. Du coup, vous restez à la maison pour le préparer. Pourquoi ne pas organiser ce repas un samedi? Ou bien le préparer le samedi et puis tout réchauffer à votre retour le dimanche après le culte. Ou peut-être il y a un mariage d'un membre de la famille à Bruxelles et vous savez que cela va durer jusqu'à 2h, 3h du matin. Et vous avez le culte le lendemain matin. Qu'allez-vous faire en entendant le réveil le dimanche matin? Si nous plaçons comme priorité nos frères et sœurs dans la foi, nous allons déployer tous nos efforts pour nous lever et venir à l'église. Vous vous dites, c'est un peu extrême tout cela. Vous n'exagérez pas un peu? Mais si nous pensons que l'église est juste un rite religieux à accomplir, ou si cela concerne uniquement moi et mon Dieu, alors bien sûr que j'aurai l'air d'exagérer. Mais si la rencontre du dimanche matin, ce sont des retrouvailles familiales entre frères et sœurs chrétiens, nous n'allons pas rater cela. Nous voudrons y être pour encourager les autres, pour être encouragés nous-mêmes. Et c'est vrai, ça fait plaisir, n'est-ce pas, lorsqu'on était absent pendant un temps, nous sommes des revenants aujourd'hui, et ça fait plaisir de voir des frères et sœurs, n'est-ce pas, rassemblés autour d'un même Seigneur. Nous allons quitter cette église dans le courant de l'année prochaine pour nous concentrer sur le travail à Louvain-la-Neuve. Nous allons démarrer une nouvelle église là-bas. Et ce sera triste pour nous, parce que vous êtes notre famille. Ce passage nous montre que la famille spirituelle doit passer avant la famille biologique. Et troisième chose, troisième implication, la relation intime avec Dieu nous aide à persévérer en tant que disciples de Jésus. La relation intime avec Dieu nous aide à persévérer en tant que disciples de Jésus. Jésus nous dit que le suivre sera très compliqué. Au chapitre 10, il nous a dit « Nous risquons d'être persécutés par l'État, par les autorités religieuses et par notre famille biologique. » Il dit « Vous serez détestés de tous à cause de moi. » Et je pense que nous qui vivons actuellement, nous allons voir une génération, ici même en Occident, où nous verrons les chrétiens de plus en plus marginalisés. Nous serons sous pression de ne pas dire ce que la Bible dit haut et fort, concernant le fait que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Et que du coup, l'islam, d'autres pistes religieuses, ne nous aident pas. Ou nous serons sous pression de ne rien dire concernant l'éthique sexuelle. Si nous osons dire ce que la Bible affirme, que le mariage c'est pour un homme et une femme, et que les relations homosexuelles constituent un péché devant Dieu, ou que le phénomène transgenre déshonore Dieu, nous risquons de nous faire moquer, mais peut-être plus que cela. Nous risquons peut-être de passer en prison pour cela un jour, ou de perdre notre emploi. Les ressources humaines ne seront pas très contentes avec les chrétiens. Jésus dit que ce serait très très compliqué, mais ça a toujours été le cas pour nos prédécesseurs aussi. Mais comment tenir le coup dans une telle vie? On a envie peut-être de se dire, mais n'a-t-il pas moyen de suivre Jésus sans passer par tout cela? Non, cela n'est pas possible. Jésus nous invite à le suivre sur le chemin qui mène à la croix. Et même si cela fait peur, le fait que nous pouvons appeler Dieu notre Père change tout. Au chapitre 10, vous pouvez le relire plus tard, Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire à votre âme. Et il dit, ne craignez pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin. Pourquoi nous devons avoir peur? Ne devons pas avoir peur de ce qui nous arrivera? Parce que nous avons un Père qui est dans les cieux, qui contrôle toutes choses. Quelle relation d'intimité que nous avons. Dieu est là, pas loin de nous. Il est notre Père. Il veut répondre à nos prières. Nous sommes en sécurité dans ses bras d'amour. Et cela nous donne beaucoup d'hardiesse, n'est-ce pas, pour pouvoir le suivre. Jésus a dit la chose suivante au chapitre 10. « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » La prochaine fois que nous sommes tentés de ne rien dire concernant notre foi pour faciliter la vie, quelqu'un nous demande demain « Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ?» et vous n'avez pas envie de dire que vous étiez à l'église. Rappelons-nous que nous sommes aimés par Dieu, notre Père. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres. Les autres peuvent penser que nous sommes bizarres. C'est OK, parce que nous sommes aimés par notre Père. Prions que Dieu nous aide à suivre Jésus coûte que coûte, qu'on devienne un petit peu plus courageux dans notre vie de disciple, sûr de notre relation avec Dieu comme notre Père. À la fin de notre série de prédications dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous met devant un choix. Allons-nous le rejeter comme les chefs religieux de son époque, sachant que nous ferons face à la condamnation éternelle, ou bien ferons-nous partie de sa famille en faisant sa volonté, en lui demandant pardon et en vivant avec lui comme notre roi? Qui ne voudrait pas connaître Dieu comme le Père céleste? Quel privilège pour ceux qui l'ont accepté. Quel encouragement à vivre pleinement pour Dieu notre Père, et non pas pour nous-mêmes, car nous faisons partie de sa famille. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour le privilège immense de pouvoir faire partie de ta famille, d'être frère, sœur, mère de Jésus, de jouir du même statut de fils bien-aimé à tes yeux, et de savoir avec certitude que nous aurons une éternité avec toi dans un nouveau monde parfait. Nous te prions que s'il y a des personnes ici encore ce matin qui ne font pas partie de ta famille, qu'elles puissent réfléchir et prendre la décision de s'humilier devant toi, te demander pardon pour faire partie de ta famille. Et pour nous qui faisons déjà partie de ta famille, que nous puissions nous émerveiller de nouveau devant toi, notre Père céleste. Grâce à ton Fils, tu nous as sauvés, adoptés. Et nous te prions que nous devenions un petit peu plus courageux dans notre marche avec toi, sachant que tu nous aimes et que cela ne changera jamais. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.